Pogacar est maillot jaune. Et on dit qu'il devrait remporter le Tour de France aujourd'hui. Élisée, il a accompli 5 miracles qui sont rapportés au chapitre 4 du deuxième livre des rois. Quelle est la nouvelle la plus importante ce matin pour nous? Je dirais que c'est la seconde. Et on va voir pourquoi les miracles, les 5 miracles que Dieu a fait à travers Élisée sont plus importantes pour nous que la victoire de Pogacar sur les Champs-Élysées. Donc, nous allons regarder 2 Kings, chapter 4, this morning. Un reste est sauvé ou comment Dieu prend soin des saints. Comment Dieu prend soin des siens. How God take care, look after its own. Dieu répond à la détresse des siens. Dieu répond aux besoins secrets des siens. Dieu ne trompe pas les siens. Dieu fait grâce aux siens. Dieu nourrit les siens. Voyons un petit peu le contexte de prophète Élisée. Et donc, pourquoi ce vieux texte, écrit il y a 850 ans, nous concerne à nous aujourd'hui, en 2026. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez regarder où se situe la vie de Élisée. Vous verrez que c'est ici, dans la grande fresque de l'histoire biblique. Il y a bien longtemps, donc. Il a travaillé dans le royaume du Nord. Le royaume était divisé entre Juda et Israël, donc, au Nord. Et du temps d'Élie, le peuple clochait les deux pieds. Tantôt, ils allaient vers l'idole Baal. Tantôt, ils allaient vers le Dieu, l'Éternel des armées. Élie avait fait remporter une victoire sur les prophètes de Baal au mont Carmel. Et cela n'avait malheureusement pas changé grand-chose. Il se trouvait bien seul. Le royaume d'Israël partagé entre Baal et l'Éternel, c'est le contexte. Le jugement de la maison d'Akab, du roi Akab, roi d'Israël, et la préservation d'un faible reste. Lorsque Élie est allé à la rencontre de Dieu au mont Horeb, la montagne de l'Éternel, Dieu lui avait annoncé le jugement sur la descendance du mauvais roi Akab. Et Élisée lui-même serait partie prenante là-dedans. On verra ça plus tard dans l'histoire. Il avait aussi fait la promesse qu'il laisserait en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrasé. Il est question aussi dans le texte que l'on va lire de la communauté des fils des prophètes. On peut imaginer une sorte de confrérie dans chaque ville. On les a rencontrés à Bethel, à Gilgal, à Jéricho, dans le chapitre 2. Les textes nous font imaginer des célibataires, des familles, des personnes qui sont soit qui consacrent 100% leur temps à Dieu, on peut imaginer cela, ou qui ont un travail séculier à côté. Deux Rois, chapitre 4, verset 1, on va voir ça, le comprendre. Élisée les visite régulièrement, les enseigne et les encourage. Il fait le tour de toutes ces communautés. Ce sont des personnes en apprentissage, dont ces fils de prophètes. Ils sont en chemin. Ils sont pas très courageux. 1 Rois 18:22. Ils n'ont pas une très grande foi. Une très grande foi. 2 Rois 2:17. Ils ne sont pas très doués. 2 Rois 4:39. 2 Rois 6:5. Ils sont minoritaires au milieu d'un royaume compromis dans l'idolâtrie. Mais il y a une chose dont il est sûr.
c'est qu'ils aiment l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils comptent parmi ces 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, un roi 19-18. Comment le temps du prophète Élisée nous parle à nous aujourd'hui, en 2026. Paul dit à 1 Corinthiens 11, 10 que les choses, toute l'histoire du peuple d'Israël sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Élisée, on l'avait vu ça, nous parle de Jésus-Christ. En effet, si Jean-Baptiste était le nouveau Élie, Jésus-Christ est le nouveau Élisée, celui qui a succédé à Jean-Baptiste comme Élisée a succédé à Élie. Élisée a fait beaucoup de miracles. Jésus en a fait bien plus. Les fils des prophètes d'hier nous parlent aussi des disciples de Jésus aujourd'hui, des communautés dans chaque ville, des personnes, hommes et femmes, en apprentissage, en cheminement spirituel, qui ont le désir d'avancer dans la sanctification. Ainsi, Dieu nous parle à travers ces textes aujourd'hui. Alors, écoutons-le. Lecture donc de Rois 4, versets 1 à 7. 2 Kings 4, verse 1 to 7. Une femme de la communauté du prophète cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire de ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », ce qui lui répondit, et qui lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va, va vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Dieu répond à la détresse des siens. Dieu répond à la détresse des siens. Quelle est la situation? À cette époque-là, il n'y avait pas de minimaux sociaux, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas de retraite ou de reversion, il n'y avait pas d'assurance vie du temps d'Élisée, et les femmes n'avaient pas non plus accès au marché du travail. Un homme décède, et il avait fait des emprunts. L'équilibre du foyer bascule soudainement dans le rouge. Les échéances de prêt ne sont pas remboursées, et le créancier veut récupérer son argent. Et pour cela, au mieux, en faisant travailler les enfants de la veuve pour son compte, au pire en les vendant. La situation est donc dramatique pour la veuve. Cette famille faisait partie de la communauté des fils des prophètes. Aussi, la dame porte sa situation à la connaissance du prophète Élisée. Et un miracle a lieu. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? C'est la question que Élisée a posée à la veuve. Vous connaissez l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Et cela semble se vérifier un peu ici, puisque l'intervention de Dieu va mettre à contribution ce que possède cette veuve. Elle n'a pas grand-chose, chez elle, mais elle a quand même des atouts. Matériellement, elle a un pot d'huile, mais aussi elle a deux fils, elle a une bonne réputation et elle a une disposition à l'obéissance. Et ces quatre choses vont être mises en œuvre. Ferme la porte, lui dit le prophète, et verse l'huile, remplit tous les pots. Tout ce que la femme possède est donc mis à contribution. L'obéissance, premièrement, elle fait ce que le prophète lui dit de faire. Les voisins, elle a de bonnes relations, ils lui donnent généreusement beaucoup, beaucoup de pots. Le pot d'huile, elle verse, et les enfants qui l'aident. Remarquez ce détail. Élie lui demande de fermer la porte. Le miracle doit rester discret. Il ne doit pas être publié. Jésus, de son temps, luttait contre cela. Il ne voulait pas que les miracles qu'il faisait s'éparpillent. Plus il faisait des miracles étaient éparpillés, plus il y avait de monde, plus il y avait, et plus ça l'empêchait de répondre à la détresse des gens. Ça limitait beaucoup ses possibilités. Nous avons peut-être des problèmes financiers, nous voulons les porter devant la connaissance de Dieu. Un conseil qu'on peut retenir, de ne pas publier la réponse que Dieu va faire. Il y aura un temps pour cela. Certainement, il y a toujours un temps où Dieu va être glorifié. Et pour le cas de cette veuve, cela viendra quatre chapitres plus tard, au chapitre 8, verset 4. Ce miracle accompli du temps d'Élisée va être porté à la connaissance de tout le monde. Mais chaque chose en son temps. Ferme la porte. Élisée lui recommande aussi, paye ta dette. Il y a un danger lorsque Dieu répond à de nos besoins financiers. C'est celui de ne pas utiliser l'argent pour ce à quoi il était destiné. On reçoit de l'argent et on l'utilise. Certes, on va payer les créanciers, payer les fournisseurs, payer tout ce qu'on doit, mais on en garde. On garde de l'argent qui va être un petit peu dépensé dans les choses dont on a peut-être envie, ce qui vise à améliorer notre confort après tout ce temps de privation, une sorte d'allégeance à la société de consommation. Notre veuve devait se désendetter complètement. C'était la priorité, se désendetter complètement. Et garder précieusement le solde afin de pouvoir survivre jusqu'à ce que ces garçons soient grands et en âge de travailler. Certes, Dieu répond toujours à la détresse des siens, mais prions que Dieu nous apprenne à gérer sagement l'argent qu'il nous donne. Dieu répond à la détresse des siens. Deuxième miracle. Dieu répond aux besoins secrets des siens. Lisons la suite de notre texte. Versets 8 à 17. Hey to 17. To King, chapter 4. Un jour, Élisée passait par Sumen. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendait désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre indépendante Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en faveur au roi, en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils, son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Dieu répond aux besoins secrets des siens. La situation, donc, une femme de la haute société reconnaît en Élisée un homme de Dieu. Elle a à cœur de faciliter son quotidien en l'hébergeant quand il passe dans la région. Élisée est touchée de cette attention et il voudrait la remercier, mais il ne sait pas comment, car elle semble comblée par la vie, sauf une chose. Une chose. Et Élisée lui annonce qu'elle aura de la joie prochainement de serrer un fils dans ses bras. Et cela dépasse toutes les espérances de cette dame. Que ton nom soit sanctifié. On prie cela régulièrement. Ô Père, que ton nom soit sanctifié. La Sunamite a reconnu en Élisée un saint homme de Dieu. Non seulement elle lui offre le couvert, mais avec son mari, elle veut lui consacrer une partie de sa maison. Ils bâtissent une pièce supplémentaire à l'étage qui lui sera exclusivement réservée au prophète et il l'aménage. Il place même là une menorah. Ce chandelier a 7 branches, une réplique, une reproduction de ceux qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Assurément, ils voient, ils ont conscience de ce qu'est la sainteté de Dieu. Ils comptent parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Que pouvons-nous faire surtout pour toi? La question d'Élisée arrive. Et ça fait penser au chapitre 2, vous savez, quand Élie avait posé cette question à son serviteur. C'était Élisée était encore le serviteur d'Élie à ce moment-là. Il avait répondu, le double, donne-moi le double de ton esprit. Il avait eu de l'audace. On avait vu ça ensemble. Et là, cette dame, elle est différente. Il y a 2 semaines, on se demandait, que répondrais-je si Dieu me demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle serait notre réponse? Et je ne sais pas si vous avez eu une réponse. Qu'avez-vous répondu? Que répondriez-vous à Dieu si cela se produisait? En tout cas, Dieu répond aux besoins secrets des siens. En fait, avoir un enfant était le désir secret de cette femme, de cette Sunamite. C'était si grand, c'était si improbable qu'elle ne m'osait même pas caresser cette idée de peur que ce ne soit pas le plan de Dieu pour elle. Qui était-elle pour demander un pareil privilège? On se sent tellement souillé et impur devant la sainteté de Dieu. Que méritons-nous? Mais il est certain que Dieu aime bénir ses enfants. Il est certain que Dieu connaît les désirs profonds de notre cœur et qu'il veut les combler. Je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul en Romains 8, 26. L'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu répond aux besoins secrets des siens. Lecture, la suite de la lecture. Dieu ne trompe pas les siens. Versets 18 à 25. L'enfant grandit. Un jour, qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Amène-le à sa mère !» Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, la tsunamite. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Conduis-moi et avance. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel, le prophète Élisée donc. Quand Dieu reprend, qu'est-ce qui a causé la mort de cet enfant? Peut-être une méningite bactérienne, ces maladies terribles. Ou bien peut-être est-il préférable de ne pas le savoir. En tout cas, il est mort sur les genoux de sa maman. J'imagine que la tsunamite a dû culpabiliser à ce moment-là en se disant « J'ai pas pris cela au sérieux, ce mot de tête au sérieux, je n'ai pas su soigner mon enfant, je n'ai pas su voir les besoins, la détresse dans laquelle il était. » Peut-être elle s'est culpabilisée. Quel drame de perdre un enfant. Quel drame. Peut-être quelqu'un a-t-il vécu déjà cette épreuve. Peut-être une dame a fait parmi nous une fausse couche. Peut-être une autre personne a dû procéder à un avortement. Mais il y a encore un espoir. L'homme de Dieu. Lisons la suite. Quand Dieu a repris. L'homme de Dieu aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre tsunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, « Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle attrapa ses pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu lui dit « Laisse-la. Elle est dans l'amertume et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. » La femme dit alors « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ?» Élisée dit à Géasi, « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Quand Dieu a repris, quand notre foi est à bout, notre tsunamite a fait tout ce qu'elle a pu, elle a entrepris ce grand voyage entre Sunem et le Mont Carmel, il y a facilement 20 ou 30 kilomètres. Aller et retour. Géasi aussi a fait tout ce qu'il a pu, mais la mort ne veut pas lâcher sa proie. Il lui faut quelque chose de plus, mais quoi? Vous savez qu'on a ce chant, le numéro 34. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. C'est un chant que l'on chante. Il est facile à chanter, mais il n'est pas facile à vivre quand Dieu a repris. Mais quand Dieu rend. Rappelons-nous un précédent avec d'un couple, un autre couple, Abraham et Sarah. Ils ne pouvaient pas eux non plus avoir d'enfants. Ils étaient dans leur vieillesse. Ils désiraient tellement ardemment un enfant et Dieu le leur avait donné. Puis Dieu avait demandé à Abraham, son père, de lui rendre l'enfant. Abraham avait accepté et on sait l'histoire que ça n'en a pas été jusqu'au bout. Dieu est intervenu avec un bélier de substitution. Dieu, par contre, a perdu pour de vrai son fils unique à la croix de Golgotha. Il l'a perdu spirituellement, il l'a perdu physiquement, celui en qui il avait mis toute son affection. Dieu peut comprendre ce qu'est la perte d'un enfant, bien entendu. Ce n'en a pas été la fin toutefois, car la mort ne pouvait pas avoir le dernier mot. Lisons la suite du texte. 33 à 37. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria à l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche, ses yeux, sur ses mains, s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha le long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, « Appelle notre tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna sur là jusqu'à terre. Puis, elle prit son fils et sortit. Dieu ne trompe pas les siens. Élisée couvre l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. On comprend, c'est pas une façon habituelle de faire quand quelqu'un, quand il y a là un mort en plus de maladie foudroyante. C'est pas quelque chose qu'on fait. Élisée lui communique sa vie en quelque sorte. Et le corps se réchauffe et il revient à la vie. Cette image nous parle de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Prendre sur lui notre mort et nous donner sa vie, notre état de cadavre spirituel. Et de nous donner sa vie éternelle. Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ce sont les paroles que Jésus-Christ, de Jésus-Christ qui sont rapportées ainsi à Matthieu 22, 32. L'enseignement de Jésus à Matthieu 18, versets 1 à 14, semble indiquer que Jésus est venu sauver gracieusement tous ceux qui sont immatures, tous les enfants. Alors, Dieu voulant, on retrouvera un jour et pour toujours auprès de Dieu les enfants qu'il nous a repris en bas âge. Dieu ne trompe pas les siens. La mort n'aura pas le dernier mot. Amen. Il y a encore deux autres miracles, rapidement, maintenant. Dieu fait grâce aux siens. Élisée, 38-41. Élisée revient à Gilgal alors qu'il y a une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets la grande marmite sur le feu, fais cuire un potage pour eux. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son habit. Et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car il ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent pas manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Et il en jeta dans la marmite et dit « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y a plus rien de mauvais, et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. La famine sévit, situation est là, les fils des prophètes ne sont pas épargnés comme les autres, ils subissent la famine. Élisée veut montrer l'exemple, prendre des initiatives, ne pas se laisser abattre, et il demande à son serviteur de préparer un bon potage. Un homme de bonne volonté suit l'exemple d'Élisée. Lui aussi, il sort et il va chercher de quoi mettre dans le potage. Hélas, il ramène des plantes toxiques qui empoisonnent le potage. La bonne volonté ne suffit pas toujours. Moi, j'admire cet homme qui a voulu apporter sa contribution au potage de Géasi. Il part dans la nature voir ce qui s'y trouve quelque chose. Quelle chance, Dieu conduit ses pas vers des légumes, à l'aspect bien sympathique, béni soit le nom de l'Éternel, il les cueille tous et il les ramène. Hélas, en ces temps de famine, si les légumes se trouvaient ainsi, disponibles, c'est certainement qu'ils n'étaient pas comestibles, autrement quelqu'un les aurait déjà ramassés. Et voilà que le précieux potage est perdu. Mais Dieu fait grâce. Élisée intervient, prie l'Éternel pour que la honte de ce fils de prophète, bien imprudent, soit ôtée et que l'on puisse se rassasier du potage à la coloquinte. Une dose de foi est cependant nécessaire pour tous ceux qui ont pris de ce potage. Il fallait qu'ils aient la foi que le potage était bon maintenant. Dieu fait grâce au ciel. Texte suivant. Dieu nourrit les siens. Dieu nourrit les siens. Un homme arriva de Baal Shalisha, une ville voisine. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je donner à 100 personnes ?» Mais Élisée répéta, « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent, Car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et laissèrent des restes conformément à la parole de l'Éternel. Dieu nourrit les siens. La situation, toujours la famine. Mais bonne nouvelle, un homme apporte 20 pains destinés au prophète Élisée, à l'homme de Dieu. Ce sont des pains haut de gamme. Ils étaient bio à l'époque. Et il s'agissait du prémice des récoltes, la même farine qu'il servait à faire les offrandes à l'Éternel. Peu importe que le pain soit si peu disponible, Élisée ordonne qu'il soit distribué à toute la communauté et le miracle se produit, les pains sont multipliés, tout le monde mange à sa faim et il y a même des restes. 850 ans plus tard, Jésus refera le même miracle, mais pas pour 100 hommes, pour 5000 hommes. Aujourd'hui, on peut se sentir loin de ce miracle parce que, qui a connu l'effet d'une famine d'entre nous? Qui a connu même le fait d'avoir faim, de ne pas pouvoir manger à sa faim? C'est difficile de se rendre compte et de s'émerveiller comme il se devrait. Dieu nourrit les siens. Toutefois, il y a un enseignement secondaire que je voudrais souligner au passage. Les 20 pains étaient destinés à Élisée. Et le prophète pense immédiatement à ses frères dans le besoin. Donne à ces gens qu'ils mangent. Verset 42. Comment nos soi-disant prophètes et super apôtres contemporains agissent? Ils reçoivent des dons. Ces dons sont pour moi. Je les mérite parce que je suis spirituel. Normal que j'ai un super frigo à la maison, normal que j'ai une super maison avec un super garage pour garer ma super voiture. Normal que je parcours le monde en super jet privé. Je trouve cela tellement honteux. En quoi ressemble-t-il au prophète Élisée, au saint homme de Dieu? En quoi leur ressemble-t-il? Peut-être vous avez envie de pleurer en constatant ces choses. Mais je ne voudrais pas terminer sur cette note un peu triste. Juste, on va repasser un petit peu ces cinq miracles. Oui, Dieu sauve un reste. Notre époque est troublée. On le voit avec ces incendies. Et non seulement cela, on voit les valeurs judéo-chrétiennes qui reculent. Mais Dieu prend soin des saints, des siens. Il répond à la détresse des siens. Il répond aux besoins secrets des siens. Il ne trompe pas les siens. Il fait grâce aux siens. Il nourrit les siens. Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Dieu prend soin de vous et moi. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette assurance que si tout semble aller de travers, tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Tu es celui qui reste le Seigneur, l'Éternel, que nous aimons et que nous honorons, et que tes yeux sont tout particulièrement sur nous et sur nos besoins. Merci de la façon dont tu nous enseignes à gérer l'argent, que tu pourvois à nos besoins dans toutes nos difficultés financières. Merci de ce que tu connais, les besoins de notre cœur, ce à quoi nous aspirons, que nous n'osons même pas envisager. Merci parce que tu es prêt à y répondre en ton temps et en ta manière. Merci également parce que tu es celui qui ne nous trompe pas. Tu es fidèle et véritable. Et tes promesses sont toutes certaines. On peut vraiment s'appuyer dessus. Merci pour cette victoire sur la mort et merci parce que tu nous entraînes. Jésus-Christ nous entraîne avec lui dans sa victoire pour nous faire passer de la mort à la vie. Merci pour l'attention que Jésus a manifestée pour les enfants. Merci pour la façon dont il les a mis en valeur en nous demandant d'avoir une foi comme la leur. Une foi toute simple. Merci Seigneur également parce que tu as compassion de nos faiblesses, de nos maladresses, de nos limites, de la façon dont nous voulons si souvent bien faire et faisons de travers notre manque de sagesse. Tu fais grâce. Tu vois notre bonne volonté pour bien faire. Et tu sais que nous avons tellement besoin d'apprendre. Merci parce que tu fais grâce. Et merci pour cette chose toute simple. Cette prière que Jésus nous a enseignée, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Fais-nous comprendre et apprécier que c'est toi qui nous nourris jour après jour. Et c'est toi qui peux multiplier pour répondre à nos besoins. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on va se séparer, que chacun de nous puissions nous nourrir de ses promesses. C'était un texte un peu long, je vous invite à le relire quand vous serez à votre maison et à vous l'approprier pour vous-même dans chacune des difficultés que vous traversez peut-être maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.